Que fait la politique à la littérature ? C'est l'heure de Tambouille, la série qui émulsionne engagement et création. De jeunes autrices issues du Master de création littéraire de Paris 8 vous proposent des récits suivis de conversations autour de la ruralité, les transclasses,
le tofu, Mbappé, les élites, les murs de camp, les cafés Paris, la couche.
Dans cet épisode, nous allons écouter 2000 ans d'autothéorie, l'after, de Nacera Tamer, qui refait le match du séminaire donné par Lionel Ruffel au premier semestre de cette année universitaire. Elle y évoque avec humour, poésie et un peu de mauvaise foi son rapport au savoir universitaire et à l'écriture transclasse de soi.
Kingsley Coman, avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé.
Allez,
allez Kylian.
Séance 1, 21 septembre 2022, introduction. Le séminaire s'ouvre par une séance d'introduction sur l'histoire des genres littéraires croisée avec les études contemporaines de genre. Jusqu'ici, tout va bien. La séance d'introduction s'ouvre par une introduction. Ok, ça se tient. Puis, sur le point d'introduire l'introduction à la séance introductive, Lionel introduit une parenthèse. Je ne sais plus à quel moment elle s'ouvre, ni quand elle se referme, si tant est qu'elle se referme. Sur mes notes manuscrites, cette parenthèse, digression, éclairage, aparté, tient en 6 lignes où il est question de Victor Klemperer, de LTI, j'ai dû vérifier après coup ce que c'était, du procès Orange, du fascisme de la langue, Roland Barthes, et d'une espèce d'équation ainsi formulée. Un PV des formes, point d'interrogation, une prod de sens, slash d'autorité, flèche, régime sémiotique, slash norme, PV d'homme d'un genre lit, point d'interrogation, qu'est-ce qu'elle produit, point d'interrogation, ou PV égale pouvoir, prod égale production, d'homme égale domination, lit égale littéraire. Je pense qu'à cet instant, je cesse de prendre des notes. Ces questions produisent comme un petit chaos mental. D'une, j'ai développé, pour des raisons diverses, une sensibilité accrue à ces signifiants. De deux, je comprends que ces questions ont fait l'objet du séminaire de l'année dernière, mais qu'elles vont continuer à innerver le séminaire de cette année. La parenthèse était donc à la fois une analepse et une prolepse, un arrêt de jeu. Comme lorsque l'arbitre demande à visualiser l'action qui vient de se dérouler, pour vérifier s'il y a eu hors-jeu ou quoi ou qu'est-ce, et ce qui doit en advenir. J'ai l'intuition que le passement de jambes et la feinte vont caractériser tout le jeu de Lionel. La pensée s'élance, silence. Il examine le terrain, les autres joueurs, évite de perdre la balle, diffère l'action, avance encore, crée le jeu, ouvre le jeu, ouvrir le jeu, toujours, ouvrir le jeu, le plus possible. Le match reprend. Mes notes ne sont pas très claires. Une page sur les liens entre les genres littéraires et la question du genre du Moyen-Âge à aujourd'hui, où il est question de Monique Wittig, Maggie Nelson, Paul B. Preciado, Noémie Lefebvre, Anne Garetta, Nathalie Quintane, Michael Bakhtin. À quelques minutes du coup de sifflet final, on reboucle sur l'intitulé du séminaire et le corpus choisi, où il est encore question de Maggie Nelson, Paul B. Preciado, Roland Barthes, Christine de Pizan, Jean-Jacques Rousseau, Philippe Lejeune, etc. Là, un point Barthes s'impose. Je crois qu'il y a un truc avec ce nom Barthes. C'est celui qui a été le plus prononcé de tout le séminaire avant le remplacement par l'attaquante Annie Arnaud. Tout le monde aime prononcer ce nom Barthes. Surtout les gens comme moi qui ne l'ont pas vraiment lu Barthes ou qui ne l'aiment pas Barthes. Avec sa sonorité 60s, Roland Barthes, on sait qu'on dit un truc qui impressionne, très France Culture, et très cool aussi, comme écouter un vinyle sur un pick-up. Ça convoque une époque, une équipe, une clique, c'est court, c'est bad, c'est chic, comme des vagues sur un yacht à Saint-Barth. Ça se glisse tranquille dans une phrase. Comme il a écrit sur presque tout, on a peu de chances de se gourer. Barthes, c'est le Johnny de la philo, le du coup de notre langue feignante. Ça met du peps. Pas pour rien le Roland Barthes par Roland Barthes de Roland Barthes.
Et finir votre travail, Roland Barthes.
Eh bien, oui, moi aussi, je suis un peu embarrassé parce que, enfin, il se présente, si vous voulez, comme une collection de matériaux, d'analyses de mythes de la vie quotidienne moderne à nous Français, le tout couronné par une sorte d'essai plus théorique sur ce que peut être alors un peu plus la notion de mythe aujourd'hui.
Séance 2, 28 septembre 2022, théorie ou theory. Je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. J'ai mon ordi, je tape plus vite que je n'écris, je ne me laisserai plus dribbler sans rien dire. De plus, la séance est diffusée et enregistrée via Zoom qui a racheté les droits. J'ai moi-même fait l'acquisition d'un thermos, je suis prête. Ça commence tranquille, on se dégourdit les jambes. Jean-Jacques Rousseau, les confessions, Philippe le Jeune, ça fleure bon le bac français, les alpages suisses, Madame de Varins, l'idylle des cerises. Mais comme toujours avec Rousseau, ça n'en reste pas là. Les esprits s'échauffent un peu trop vite, l'extase s'invite. Accélération de jeu, il y a comme un essai de définition collective de ce que peut être l'autothéorie. Dans mes notes, ça donne écriture personnelle plus théoriser le fait de s'écrire soi plus théoriser ou généraliser des éléments autobiographiques plus se théoriser entre parenthèses auto-évaloriser, théorie et dévaloriser plus mettre en pratique un langage théorique slash rompre avec la distinction littéraire-science, donner un savoir, slash, dans les sciences humaines, il y a eu un tournant narratif, histoire, anthropologie, ethnologie. Lionel reprend la balle et part en roulette sur, bam, le monde de l'art contemporain, l'écriture du corps malade, la littéralisation des sciences humaines, la théorisation des pratiques littéraires, le structuralisme et le post-structuralisme. L'ouverture libérale des campus américains, la radicalisation de la centralité de la pensée du littéraire, les apports de la French Theory, la naissance des Women Studies, Gender Studies, Postcolonial Studies, les formes infralittéraires, paralittéraires, proto-littéraires. Je tente d'organiser mes notes au fur et à mesure que je les prends. Je reviens en arrière souvent. Le système des slash est imparfait, mais me permet de signifier que l'idée continue son développement, mais dans une direction différente. Ce n'est pas un point qui marquerait la fin d'une phrase, d'une idée, c'est un rebond. La pensée qui se déploie forme un rhizome, c'est très contemporain, très brouhaha, très lionel. Une mind map, une map monde, un magma, un doliprane please, ça profuse trop. À la relecture, mes notes deviennent un peu obscures. Le cours est pourtant éblouissant, trop peut-être. On est plus proche d'une performance que d'un cours d'ailleurs. En tout cas, très loin de mes vieux cours de droit à Assas où même les étudiants étaient poussiéreux. Lionel dit cette phrase. Je ne suis pas pour l'érudition devant un tableau Velleda où on peut lire les noms suivants. Claude Lévi-Strauss, Bruno Latour, Annette Wivorka, Jacques Lacan, Roland Barthes, Louis Althusser, Michel Foucault, Marc McGurl, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Roland Barthes, oui, deux fois, Chris Krauss, Sylvère Lautringer, Denis Roche, Jean-Luc Godard, Laurent Génie, Marcel Proust, James Joyce. Cette séance 2 est surtout marquée par la naissance de la controverse de Barthes, a.k.a. la question de l'élitisme. Démarrée en suivi de projet avec Christine, elle a pour protagoniste Jessie, qui veut des réponses à ces questions. Nadid, qui refuse de penser qu'une réponse puisse être donnée à une question. Louis, qui pose les bonnes questions. Moi, qui pense avoir les bonnes réponses. Je la relance bêtement en m'attaquant à la soi-disant marginalité de Chris Krauss, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Cette controverse a fait du mal au collectif, je le reconnais. J'en éprouve encore du regret et un peu de culpabilité. Je ne désespère pas que nous trouvions une conciliation un jour. On s'est déjà sorti de bien plus mauvais pas et la saison est loin d'être terminée. Séance 3, 5 octobre 2022, présentation Preciado Nelson. La séance démarre sur un rappel des différentes figurations de soi en littérature telles que les présente Laurent Génie dans son cours à l'Université de Genève. Ça fait du bien, on respire, comme une bonne séance chez le kiné. Arrêt de jeu numéro 1. Je pourrais ici parler de mon projet d'écriture personnelle sur ma situation d'enfant d'immigré évoluant entre une langue maternelle, l'arabe dialectal marocain presque perdu, et une langue française à la fois émancipatrice, mais aussi d'effacement d'une culture d'origine. Ce faisant, j'aurais pu faire le lien avec l'ouvrage de Alain Ozoni de l'Université de Lausanne, Mémoire d'outre-langue, l'écriture translingue de soi. Je pourrais, mais je n'ai pas fini de lire les 7 essais. Barthes rôde encore, mais il commence à accuser le coup. Il est de toute façon surtout question de Preciado et de Nelson. Autant je ne me précipite pas pour lire ces textes, j'ai toujours du mal avec les essais, autant je suis contente qu'ils soient dans le corpus. Je sens qu'ils peuvent pallier mon manque de capital cool. Oui, ça me fait mal de l'admettre, mais pour la première fois de ma vie, je ne fais pas partie des gens cool. La preuve, je sens qu'aujourd'hui, plus personne ne dit cool. Je manque de cool pour une étudiante de master de créalite de Paris 8. J'ai 40 ans, je suis hétéro, cisgenre, pas de piercing, pas de tatouage, pas de coupe de cheveux hype ou de mèche teinte en bleu, pas de Doc Martin emo. J'écris de la non-fiction, pas fun. Je me suis embourgeoisée à la faveur d'une vingtaine d'années de vie à Paris, dont l'essentiel comme juriste en banque. Il y a moins d'un an, j'avais un bureau, des pauses déj sous les arcades du Palais Royal, un bon salaire, des congés payés. Ma garde-robe n'est pas du tout adaptée au couloir vétus de Paris 8, sans parler des bousculades sur la ligne 13 du métro, et je ne métabolise pas le panini avalé entre deux cours sous la pluie. Je suis une transclasse qui expérimente le déclassement, le refus de parvenir. Je vais donc acquérir les codes de ma nouvelle classe. Toujours assez blanche, mais moins blanche que celle des cadres sub-parisiens. Celle des intellos artistes précaires. Pas d'argent, mais un capital culturel et un réseau. Qui ont lu Nelson et Preciado, et Barthes bien sûr, sont de tous les événements woke que compte la capitale et sa banlieue gauchiste. Je n'ai jamais autant fréquenté ces communes que depuis septembre dernier. Saint-Denis, Pantin, Les Lilas, Aubervilliers, Bannelay. Ils font même des performances en pull tricoté main ou chiné et qui remplissent des dossiers de subventions et de résidences à tour de bras. J'ai hâte.
Avec l'équipe de Falabra qu'on a, on a gagné la Coupe du Monde. Tout peut arriver dans le football. La photo.
Séance 4. 12 octobre 2022, Annie Ernaux, le prix Nobel et les écrits personnels. En plein milieu de saison, le scénario bascule, digne d'un Mbappé qui, quelques mois plus tard, à la 80e minute de la finale de la Coupe du Monde, marquera contre l'Argentine et redonnera l'espoir à tout un pays, Annie Ernaux décroche le Nobel et vient donner une tape sur l'épaule de toute une génération d'autorices auto-sociobiographes dont je me réclame. En plus des parents pauvres, de la dislocation du foyer provoquée par l'ascension sociale, du propos féministe, je me reconnais dans son écriture dite « plate » parce que je viens du Havre, qui est tout à côté d'Yvetot. Je sais, c'est bête. Et je viens aussi du pays loin des parents, mais qui, lui, ne se rejoint pas, ni en train choral intercité, ni autrement. Il ne se rejoint plus jamais, il est perdu. J'ai perdu mon pays et ma langue, et maintenant, je suis là à ne rien connaître organiquement, sauf moi-même. Elsa Triolet, écrit intime. Arrêt de jeu numéro 2. Je pourrais ici parler de ce que j'écris sur le Havre, des bribes de tous côtés dans mon ordinateur. Par exemple, à la bord d'Yvetot, le train choral dépasse une mouette qui semble voler à reculons. À la bord d'Yvetot, je m'enfonce dans le vert velouté de mon siège. J'aurais pu parler de ce que ça fait la proximité physique avec les corps de mes parents, de mes frères, de ce que ça fait d'avoir eu une bibliothèque de pauvres, ce que ça fait d'avoir poinçonné au fond de l'œil le bleu de la piscine municipale sur laquelle donnait la HLM où j'ai grandi. Je pourrais, mais ce ne sont que des bribes. Cette séance 4 nous transporte. Je me sens comme en 98 au moment de la victoire des Bleus. On ne forme plus qu'une seule nation. Les écritures fictionnelles, non fictionnelles, personnelles, queer, racisées, politiques, sociales, poétiques se tiennent par la main. Mais comme en 98, ça ne dure qu'un temps avant que les rageux ne déversent leur fiel. Je crois que c'est à cette séance qu'émerge l'idée d'un after-foot, refaire le match sur Radio Brouhaha. La team Nadjid, Louis, Céline, Manu, Yvan est chaude. On s'accorde sur le fait qu'on a trop de choses à se raconter, sur le fait d'être en création littéraire, d'écrire sur soi, d'écrire tout court, que ces choses à se raconter, ça pourrait donner une matière radiophonique. Comment, pour qui, pourquoi, on ne sait pas trop encore. Je lance le truc, mais je fais une erreur tactique, on n'est pas encore prêt. Trop de dissensions, un dispositif mal défini, je ne m'avoue pas vaincue.
Oui, alors ce sentiment-là, bien sûr, c'est tout simplement c'est le sentiment, je crois, des transfuges en général, qui étant né dans un milieu où ces choses n'étaient pas imaginables, non seulement de Nobel, mais d'aller à la fac, de devenir professeur ou d'avoir, comme disait ma mère, une bonne place. Toutes ces choses, quand elles arrivent.
Séance 5. 19 octobre 2022, Auto Theory as a Feminist Practice, Maggie Nelson. La séance est encore plus passionnante que la précédente. Le jeu s'affirme, ça circule entre les étudiants et Lionel. Je me retiens de trop parler, comme par honte. Tout titille mon cerveau. Ces questions sur lesquelles je butais depuis des années dans mon écriture, auxquelles je réfléchissais, sans ref, sans carte, sans certitude, juste avec mes petites intuitions, mes peurs, ma sensibilité, eh bien ces mêmes questions ont agité plein d'autoristes avant moi, autour de moi, et ça va continuer, et ça me met en joie. Il est question de Laurent Fournier, Gayatri Spivak, Omi Baba, Édouard Saïd, Clarice Lispector, Audrey Lorde, Simone de Beauvoir, Yoko Ono, Trisha Brown, Martha Rosler, Judith Butler. Après la séance, je mets du temps à redescendre. Je ne sais pas quelle hormone agit là, mais elle me porte, comme Maradona aidé par la mano de Dios face à l'Angleterre en 1986. Peut-être que c'est ce dont parle Adorno dans l'essai comme forme, qui sera vu à la séance 11. Le loisir, propre à l'enfance, qui n'a aucun scrupule à s'enflammer pour ce que d'autres ont fait avant elle. Le bonheur sacré. Séance 6, 26 octobre 2022, identité et désidentification. Gros effort de Lionel pour structurer le jeu. Peut-être que le séminaire a trop débordé. Il faut éponger, former des rigoles. Un plan autour de 4 items est annoncé pour la suite du séminaire. Autobiographie, essayisme, critique d'artiste, fiction. Ce plan sera-t-il respecté? C'est notre question. Le rythme s'intensifie, je tiens le choc. Je continue à prendre des notes. La tension entre apport théorique et travail sur les textes se fait davantage sentir. Lionel présente des catégories toujours plus sophistiquées. Moi, les classifications, c'est moyen mon truc. Si on ne me démontre pas en quoi deux catégories s'excluent l'une l'autre, en quoi elles sont nécessaires, ces catégories ne valent pas tripette. Après, ça m'amuse, c'est comme un puzzle ou des Legos. Et là, un truc bizarre. Je sens que parmi ces catégories, il pourrait en manquer une. La catégorie n'existe pas car elle rassemblerait des textes qui sont comme écrits à l'encre invisible, hors d'atteinte. Des textes écrits par des immigrés et des enfants d'immigrés maghrébins en France où l'écriture de soi, personnelle, raciale, sociale, politique, sexuelle, linguistique, occupe une place importante. J'essaie d'avancer mon point, mais je perds la maîtrise du ballon. Fatima Das et Kautar Archi sauvent les meubles. Pour comme nous existons, Lionel dit quelque chose comme « ça redonne espoir dans l'université française ». Ça m'attriste un peu. L'impossibilité faite à ces autoristes, à moi, d'accéder à l'écriture fictionnelle. On les ramène toujours à leurs conditions, leur biographie ou l'écriture non fictionnelle. Ils nous embêtent avec leur prouesse de transclasse. Toujours exclus, pas de littérature pour nous. Arrêt de jeu numéro 3. Je pourrais ici parler d'un essai intitulé « Fini d'écrire » de Tassadit Imash, qui raconte cette invisibilité et aussi ce qu'est écrire une vie hantée par le passé, par l'enfance en périphérie, avec le lino chaud sous les pieds tout l'hiver, par le pays loin perdu du père, ce qu'est trouver les personnages, la phrase, la langue pour écrire ça. J'aurais pu, mais le temps me manque.
En être sorti directement, vous pourriez très bien être en prison. Une lettre sur l'écriture, ça se finit mal. Est-ce que vous en êtes sauvé grâce à l'écriture? Et c'est ça qui est extraordinaire, non?
Ouais, mais je crois que je suis un des premiers. Maintenant, je crois que ça va venir. Il y a un phénomène en ce moment qui se passe dans ce qu'on appelle deuxième génération, qui est parti dans les arts. Et il y en a beaucoup qui écrivent, qui sont dans la musique, dans le théâtre. Et là, c'est un départ. Moi, je crois que dans 2-3 ans, il faudra absolument les accepter parce que.
Séance 12, 4 janvier 2023, temps additionnel. On joue les prolongations, encore plus de catégories, merci Jeunette, thématique, rhématique, fiction, diction, poésie, prose, pas la meilleure façon de clore le séminaire, mais a-t-il seulement commencé? Et puis, tout à la fin, du propre aveu de Lionel, une fausse question participative. Quel sujet verriez-vous pour le séminaire de l'année prochaine? Son idée, où va la littérature? D'après moi, au vu des résultats du championnat, tous les espoirs restent permis.
Merci Nassera pour la lecture de ton texte. Maintenant, c'est l'heure de la conversation avec...
Yvan.
Louis.
Et moi, c'est Nadide. Et il se trouve que cette conversation clôturera la fournée de cette tambouille. Et moi, je voulais... tu nous donnes l'occasion de revenir dans ce texte sur ce séminaire d'autothéorie qu'on a traversé tous ensemble. Et voilà, je voulais t'entendre sur ce concept d'autothéorie.
Alors oui, c'est un séminaire qui est donné par Lionel Ruffel pour les étudiants en création littéraire, mais aussi en création critique. Et cette notion, en fait, d'autothéorie, elle est présente dans les textes, notamment Les Argonautes de Maggie Nelson et aussi dans le texte de Paul B. Preciado, Testo Junkie. Et elle vise, en fait, à englober ce qui serait du récit personnel, mais pris dans un cadre théorique et politique. Un récit d'une intimité... dans un cadre théorique et politique. Et en fait, avec ce séminaire, d'où l'intitulé « 2000 ans d'autothéorie », c'était de retracer un peu la généalogie de ce type de texte. Et on y a rencontré des auteurs comme Montaigne, Rousseau, Annie Ernaux. Donc c'était très riche. Et surtout, en fait, c'était une expérience... en soi, en fait, de suivre ce séminaire et un lieu aussi de rencontre. En fait, je pense qu'on a beaucoup échangé pendant le séminaire, après le séminaire. Et voilà, c'était un peu le... C'était cette notion-là, j'ai eu l'impression qu'elle avait inspiré beaucoup de personnes, mis mal à l'aise certaines personnes. Enfin, ça nous a fait réfléchir.
Oui, ça nous a mis en travail, effectivement. Et c'est marrant parce que tu as vraiment employé un peu une forme de chronique pour revenir là-dessus. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on était tous tellement déplacés qu'on ne savait plus combien de ballons il y avait sur le terrain, combien de joueurs on était. Des joueurs apparaissaient au fur et à mesure des minutes qui s'écoulaient et des jours qui passaient. Et ouais, cette chronique, voilà, je ne sais pas si tu l'appelles vraiment comme une chronique ou comment tu la qualifierais.
Moi, j'aime bien ce mot de chronique parce que j'apprécie le geste de faire la chronique du quotidien dans ce qui peut avoir de très banal et de documenter ces choses-là. Et par exemple, se dire, oui, un séminaire de théorie littéraire à Paris 8, c'est une matière qui peut donner lieu à littérature. Qui peut donner lieu à un geste d'écriture. Et j'aborde un peu tout comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, là, on est en train d'enregistrer une émission de radio. Et même ça, ça pourrait me donner une envie d'écriture, de rendre compte de ce qui s'y passe. Alors, il y a une dimension un peu documentaire, un peu journalistique, mais il y a aussi une impulsion plus littéraire qui explique que je m'autorise des fantaisies, des écarts avec le réel, l'humour, des choses un peu maladroites, des choses un peu poétiques. Enfin voilà, je m'amuse. C'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir comme pratique.
Oui, ce qui est intéressant dans ton texte aussi, c'est que voilà, comme tu viens de le dire, donc tu décris en quelque sorte des événements qui se sont produits, mais tu choisis comment tu les racontes, ce que tu en gardes, comment tu le mets en scène. Et ce qui est intéressant, c'est que tu campes ton propre personnage, tu crées des personnages à partir de là. Il y a le personnage de Lionel, il y a nos personnages aussi, et tu campes ton propre personnage de narratrice que tu décris, que parfois tu critiques gentiment. Et ça m'a donné envie que tu puisses nous parler de comment toi tu abordes l'écriture personnelle de manière plus générale dans ton rapport à l'écriture, dans tes travaux.
Ok. Alors, ce qui m'intéresse quand j'écris, c'est de transmettre la manière dont moi, j'arrive à mordre le réel et donner ma sensibilité et la faire passer dans une langue. J'ai pas l'impression de placer mon vécu, ma personne, au centre de mon écriture. C'est pas, en tout cas, c'est pas ce que je cherche et c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai plutôt l'impression de vouloir partager une sensibilité, une voix, un regard. Et ce qui me plaît, c'est toucher quelque chose, chercher une justesse pour rendre compte de mon environnement, d'expériences que je traverse, de relations que je noue, et des choses qui m'interpellent. Et ça peut être très prosaïque, ça peut être très banal, ça peut être des choses un peu plus nobles. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'aborde l'écriture personnelle.
Et du coup, à un moment dans ton texte, tu parles de cette petite place qui est réservée aux autrices descendantes d'immigrés. Donc, c'est en fait, elles ont seulement le droit de parler de ça, en fait. On en a déjà discuté, mais avec Louisa Youfsi, qui est aussi critique ces récits un peu sociologiques, parce que d'une certaine manière, ils sont assignants. Et en même temps, je ne sais pas ce que c'est, toi, si tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu penses que c'est la seule place qui est faite, parce que tu dis dans ton texte j'aimerais bien écrire de la fiction, puis là ce que tu viens de dire, en fait, c'est quand même que t'es vraiment dans le réel. Donc est-ce que tu dis que t'aimerais faire de la fiction pour sortir un peu de cette assignation, enfin tu vois le truc, quoi?
Ouais, c'est pas tant que j'aimerais faire de la fiction, je suis pas sûre de mettre ça dans ce texte. Ce que j'ai envie de faire, c'est de la littérature, et c'est pas facile quand on a une certaine un parcours, c'est-à-dire que se dressent différentes injonctions, différentes attentes. Il y a des clichés qui, comme tout cliché, reposent aussi sur une part de réalité, de vérité. Et l'idée, c'est, pour moi, quand je parle de littérature, c'est de ne pas me laisser enfermer. Donc ça peut être celui de la réussite sociale, parce que je fais partie en effet d'un groupe où il était encore possible de s'en sortir grâce à l'éducation. On me parlait d'ascenseur social, d'idéal républicain, etc. Mais c'est aussi un discours qui peut enfermer. Effectivement, j'ai vécu une forme d'ascension, mais c'est pas pour autant que je souhaite abonder dans le sens du discours qui veut qu'on prenne un ascenseur social et tout va bien. En fait, c'est pas exactement ce qui se passe. Et j'ai pas non plus envie de masquer les difficultés qui tiennent à mon milieu d'origine, parce qu'elles existent, ces difficultés-là. Mais j'ai pas non plus envie de rentrer dans le cliché de la beurette qui s'émancipe de oui, d'une domination patriarcale. Enfin bref, extrêmement compliqué comme exercice. Et la seule voie que je trouve pour m'en sortir, c'est d'avoir foi en la littérature, en fait. C'est la langue, la création littéraire qui permet de faire émerger la singularité et quelque chose qui touche, en fait. Et de refuser, en fait, toute assignation, de déjouer, en fait, les attentes. C'est un peu ce que j'essaye de faire.
Mais en fait, rien dans ma question, je trouve qu'on voit déjà que tu as moins de place parce qu'en fait, tu es obligé de te positionner par rapport à ce qui existe. Parce que, par exemple, moi, on va peut-être vaguement me demander. On va vaguement me demander mon rapport aux classes sociales, ouais. Et tout ça, mais en gros, moi,
tu es
obligé de te positionner, tu as moins de place.
Et ce qui est fou, c'est que moi-même, ce sont des choses dont je fais la découverte. Au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand je parle de l'invisibilité d'une littérature maghrébine en France, c'est que cette invisibilité-là, je me rends compte seulement maintenant à quel point je parle de Tassidi Image dans ce texte, qui est une autrice qui est née à Nanterre, je crois, dans un milieu très pauvre, qui a écrit une dizaine de romans que je trouve magnifiques, dont j'avais jamais entendu parler avant de lire un reportage sur Mediapart par une journaliste qui s'appelle Faiza Zerwala, qui revient en fait sur qu'est-ce que la littérature beurre en France. Et donc je découvre aujourd'hui des voix, des plumes, des langues difficiles d'accès. Et elle en parle dans un de ses essais, cette autrice, parce qu'elle publie un roman et par curiosité, comme font beaucoup de personnes qui écrivent, elle se rend dans une librairie pour aller voir son livre. Et elle se rend compte que ce livre est rangé dans un rayon littérature étrangère. Donc on ne la range pas dans littérature française. Et là, elle se demande, mais elle se sent en fait chassée d'une certaine manière. Elle ne trouve pas sa place. Donc ça, c'est pour ça qu'elle écrit cet essai, elle revient sur son geste d'écriture et la réception. On lui reproche aussi d'écrire des choses trop dures, parce qu'elle raconte c'est quoi de grandir dans ce qui sont des bidonvilles dans les années 70 en région parisienne. On lui dit mais c'est trop dur, c'est trop violent, c'est trop... Donc voilà le type de reproche. Et donc je dis ça parce que moi, je fais l'expérience et sans référence. C'est-à-dire que je traverse ça. Et par exemple, dans cet article écrit par Faiza Zerwala, ce qu'elle souligne, c'est qu'à l'étranger, il y a plus d'études sur la littérature maghrébine française qu'en France. Des auteurs, des universitaires anglais, américains, vont s'intéresser à des objets littéraires français qui ne sont pas considérés comme des objets littéraires en France, en fait. Et c'était intéressant dans le séminaire de Lionel, parce qu'on a pu traverser aussi ce genre de préoccupations. Et de voir que quand on parle d'auto-théorie, on parle d'écriture de soi, et on a pu voir que l'écriture de soi, ça entrait aussi dans une dynamique de lutte. En fait, c'est aussi une manière de s'approprier un espace et de faire émerger des récits intimes et des récits aussi politiques. Et donc, ça a toute sa place de parler... je pense, de littérature maghrébine, même si c'est même pas vraiment une école, c'est même pas vraiment un courant, et ça a des points de contact avec plein d'autres littératures. C'est juste à quel moment on peut accéder ou pas à telle écriture.
Et tu parlais donc de ta solution pour échapper autant faire que peu à ces injonctions paradoxales d'un côté... voilà, on fait tout pour que les personnes descendantes d'immigrés soient... qu'on les empêche d'accéder à la littérature, quand ils y accèdent, on finit par se dire, bon bah ok, du coup on vous donne tel genre et maintenant vous avez le droit d'écrire que sur ça. Et en même temps, il y a aussi maintenant des mouvements où on dit, ah, maintenant ça suffit de parler des récits transfuges de classe. Bon. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était que ta façon de sortir de ces injonctions-là, c'était par la foi en la littérature. Et tu parles aussi dans le texte de ton rapport aux essais, à la théorie. Tu parles aussi de cette question de, dans le séminaire, du fait qu'en fait on était abreuvé de références théoriques nombreuses, que parfois ça pouvait générer des paradoxes, de la perplexité, de la saturation. Qu'est-ce que toi tu retires de ça? Quelle place est-ce que tu penses que tu accordes à la théorie au sens large dans ton écriture ou dans ton procédé d'écriture? Là, tu cites des auteuristes que tu lis aussi. À quel point est-ce que tout ça, tu en as besoin pour abreuver ton écriture?
On a effectivement, au cours du séminaire, croisé beaucoup de références dans le domaine de la théorie littéraire. Et c'est des références vis-à-vis desquelles je suis assez ambivalente. C'est-à-dire que je suis à la fois impressionnée, ça éveille ma curiosité, je les reconnais sans les connaître. Parce que je les ai pour l'essentiel pas lus. Et en même temps, ça me fait peur parce que j'ai peur de ne pas avoir les clés de compréhension. J'ai un peu honte de ne pas connaître. Bref, et ça, cette peur-là, forcément, ça fait un phénomène de rejet. Il y a une espèce de truc attirance, répulsion. Et ça, c'est parce qu'il y a plein de raisons à ça, et je suis pas la seule à ressentir ça. C'est le paradoxe aussi avec cette formation de création littéraire, parce qu'elle s'inscrit dans un cadre académique, et donc il y a une exigence académique de savoir, et en même temps une très grande liberté. Et donc, on a un peu balancé entre les deux. Et par exemple, quelqu'un comme Lionel Ruffel, c'est quelqu'un qui réfléchit avec ses auteurs, ses autrices depuis des années. Et peut-être que de son propre aveu, parfois il oublie qu'en face de lui, il y a des personnes qui n'ont pas fréquenté ses textes depuis des années. Que donc, il y a des personnes qui n'ont pas lu les Confessions de Rousseau, par exemple. Et lui, il parle de ça comme si c'était tout le monde avait une connaissance intime du texte de Rousseau. Et j'essaie de pas trop tomber dans le syndrome de l'imposteur parce que effectivement j'ai l'impression de partir avec un déficit culturel, un manque de savoir. Parce que c'est un savoir académique qui n'est pas présent, qui n'était pas présent dans ma famille, dans le milieu dans lequel j'ai évolué, grandi. Et il y avait d'autres types de savoirs dans ce milieu-là, mais pas ce savoir-là académique et universitaire. Par contre, la lecture, c'est vrai que là, je lis difficilement des essais. Moi, la littérature, c'est beaucoup le roman. C'est par là que j'ai grandi dans le domaine de la littérature. C'est par la lecture de romans. Il y a très peu d'auteurs de romans, poésie, théâtre qui peuvent m'effrayer. C'est-à-dire que je sais que je vais pouvoir me frayer un chemin, trouver ma place. Je l'ai su assez vite. Par contre, c'est vrai que le domaine théorique, ça peut générer une espèce de « je ne vais pas comprendre, je ne connais pas, c'est trop compliqué, j'ai moins de repères en fait. Je ne sais pas comment beaucoup cheminer. » Alors j'essaye de faire un peu comme Céline recommande, de prendre ça comme je peux et c'est très bien.
J'ai remarqué une chose dans ton texte, c'est que le motif plus personnel, il arrive au moment à l'occasion de fragments que tu appelles arrêt de jeu. Et je trouvais ça intéressant justement dans tout ce que tu es en train de déployer maintenant et de ce que je peux voir de cette convergence et de cette accumulation des luttes et des assignations différentes et presque on ne sait plus où donner de la tête. Et il y a des auteurs et des autrices qui disent des choses à des endroits différents, des théories qui nous parlent, plus ou moins, mais dans lesquelles on est quand même un peu perdu l'air de rien et qu'on est perdu dans sa propre vie. Et ce que tu disais du quotidien tout à l'heure, de ce que tu essayes de trouver dans ton quotidien, et je me demandais, tiens, est-ce que c'est ce que te permet la littérature, c'est-à-dire à un moment donné de t'arrêter, pour reprendre une autre image dont tu parlais au début, c'est un peu cet ascenseur social. Genre, bah oui, peut-être qu'il monte, mais en fait, est-ce que je dois descendre ? Et d'être pris un peu dans cette paradoxe de monter, descendre, aller là ou aller là, et qu'en fait, on est toujours pris dans des contradictions, peu importe où on se situe, et qu'à un moment donné, je trouve très beau dans ton texte que tu dises « arrête de jeu », on arrête de jouer. Et c'est précisément l'endroit que tu nommes arrêt de jeu dans ton texte, c'est à cet endroit-là qu'en fait vraiment le motif personnel s'immisce et en fait innerve ce séminaire de ton écriture en fait.
Oui, il y aurait peut-être deux choses à dire. C'est que pour moi la littérature c'est le lieu de la complexité, c'est-à-dire que c'est un endroit où on peut s'arrêter, justement, comme tu le soulignes. Et mettre en œuvre, en fait, une manière de connaissance du monde, c'est-à-dire... je sais pas comment exprimer ça, mais tout est... complexe et c'est pour moi dans la littérature que j'ai pu embrasser la complexité en fait du monde, des êtres, des relations entre les êtres et j'espère continuer ce geste moi-même dans l'écriture. Et c'est vrai que peut-être que voilà, c'est une tentative hein, que j'entreprends. Et la deuxième chose, c'est que forcément, ce séminaire, mais aussi toute expérience, il y a un mouvement de reconnaissance, c'est-à-dire en quoi ce que j'entends de Paul B. Preciado ou quelqu'un d'autre vient faire écho à une expérience intime. Et en quoi ça m'éveille quelque chose, en quoi ça me mène quelque part, en quoi ça répond à quelque chose que j'ai vécu. Et c'est en ça que c'est certainement ça qui a fait que j'ai écrit ce texte et eu autant de plaisir à suivre ce séminaire, c'est que je me suis sentie embarquée vraiment en termes physiques avec ce savoir qui nous a été transmis par Lionel et qu'on a construit avec Lionel, en fait, parce qu'il y a eu... C'est ça, c'est cette circulation-là qui m'a intéressée.
Eh bien, merci Nassera pour cette passionnante conversation. Donc, on va conclure cet épisode un peu spécial puisque c'est le dernier de la première fournée de Tambouille. Et maintenant que tu as éclairé pour nous ce qu'était l'autothéorie, je propose aux auditrices et aux auditeurs, avant de découvrir peut-être la deuxième fournée dans quelques temps, de réécouter les épisodes précédents à la lumière du dernier et donc de retourner voir ce qui se passe du côté de Manu, de Céline, d'Yvan, de Louis, de moi et peut-être de Nassera encore une fois pour reboucler.
Voilà, merci.
Merci et merci beaucoup à Lauriane qui est avec nous et... Voilà, on pourrait faire un épisode entier de remerciements. Donc merci beaucoup, Lauriane.
Merci.